Ovior.
Fjord.
Ovior.
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 Ovior. Ovior.
Qu'est-ce que c'est ? Une série de podcasts proposés par Les Pages Vior. Dans cette série, nous vous parlerons du cycle de l'eau en nous appuyant sur un territoire bien particulier, celui du bassin versant du Vior. Le Vior est une rivière de 163 km qui circule en Aveyron, dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne.
Pour ce quatrième épisode, nous parlerons paysage et aménagement des sols agricoles en compagnie d'Hélène Pouget, chargée de mission à Les Pages Vior. Nous rencontrerons aussi des agriculteurs, des professionnels de la Chambre d'agriculture, de la Fédération départementale des CUMA et de l'association Arbres et Paysages d'Aveyron. Ils sont tous partenaires de Les Pages Vior.
Si vous vous êtes promené sur le bassin versant du Vior, on est quand même sur un territoire de bocage où on voit beaucoup de prairies, beaucoup d'herbes, on a des forêts dans les vallées. On n'est quand même pas sur des territoires où on peut se dire, voilà, il n'y a plus rien. On pourrait se dire que c'est naturellement comme ça, mais non, il y a eu une évolution et on a perdu, voilà, beaucoup de haies, beaucoup de zones humides, mais on reste quand même dans un territoire encore de bocage où la prairie et l'herbe, c'est quand même la culture principale sur notre territoire.
Regardons le paysage en compagnie d'habitants qui sont proches du viaduc du Vior, dans le Ségala.
Ouais, moi, je me rappelle, on avait deux vignes qui donnaient, disons, sur le penchant, là, qui étaient ensoleillées, disons, du matin 9h jusqu'au soir 18h. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de terre, il y avait beaucoup de pierres. C'était une vigne qu'on cultivait à la pioche. Oui, tout le monde avait sa vigne.
Ouais. En fait, les parcelles pentues ont été abandonnées au profit des parcelles du plateau, tout ça en lien avec la mécanisation.
Nous, sur le bassin versant du Vior, on a deux régions naturelles. On a le Lévezou, plutôt sur la partie amont du bassin versant, et ensuite le Ségala, sur la partie aval et à partir de la partie médiane du bassin versant du Vior. Donc concernant les paysages, sur le Lévezou, on avait beaucoup de landes et de zones humides. Et on était sur un territoire, et on l'est toujours, rude au niveau climatique, puisqu'on peut aller jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude, des sols pauvres, très acides. Et donc c'est l'arrivée de la chaux, avec l'arrivée du chemin de fer. Donc ils ont défriché les landes pour en cultiver des champs et remonter les pH du sol. Après, dans les années 60, il y a eu une intensification agricole où là, on a continué à beaucoup drainer les zones humides. Ça s'est très intensifié, le drainage des zones humides des années 70 à 90. Entre guillemets, on disait « assainir » pour pouvoir implanter d'autres cultures et notamment des cultures fourragères. Donc c'est vrai qu'à partir des années 70, il y a eu une intensification avec la mécanisation notamment de l'agriculture. La production de roquefort aussi s'est installée, donc il y a eu l'élevage et l'implantation de cultures fourragères sur ces zones humides qui ont disparu, sur ces landes qui ont été défrichées, et ça va aussi de pair avec l'arrachage des haies. Donc on a vraiment une modification de l'espace pour pouvoir produire pour les animaux. Nous, sur notre territoire, on est vraiment sur une agriculture de polyculture élevage. Il y a eu le développement de la fertilisation, des amendements, qui ont fait qu'on a une agriculture beaucoup plus productive. On a du matériel de plus en plus gros, pour permettre de faciliter le travail, pouvoir passer avec les engins. Donc il y a toute cette modification de l'agriculture sur le Lévezou qu'on va retrouver sur le Ségala. Bon, le Ségala, c'était plutôt le pays du seigle et de la châtaigne. Beaucoup moins de zones humides de manière naturelle, beaucoup plus de vallées encaissées, puisque c'est le pays des 100 vallées. On va quand même rencontrer l'arrachage des haies. La mécanisation aussi va permettre d'aller dans les pentes, cultiver dans les pentes. Donc une agriculture qui s'intensifie sur l'ensemble du bassin versant.
Il y a plus d'exploitation, des champs plus petits, et maintenant on est
On n'est plus que deux dans le village. Hein. On a grandi les parcelles. C'est vrai que ça a fait un peu de... C'est bien pour travailler, mais un peu moins bien peut-être pour l'érosion des sols.
Des petites parcelles, c'est un handicap pour le travail. Hein. Vous piétinez, beaucoup de piétinement. Pour aller autour des haies, pour donner des petites parcelles. Avec une grande parcelle, on ne piétine pas. Et les petites parcelles, avec les gros tracteurs, maintenant, aujourd'hui, on détruit tout. Hein.
Des témoignages qui montrent que le changement est compliqué, même si les premières victimes de cette agriculture intensive sont les agriculteurs eux-mêmes. Néanmoins, il y a quelques années, on a commencé à changer de regard.
Tout a évolué.
Tout a évolué. Nous, quand on faisait du maïs, c'était simazine à trazine. Il ne faut pas le dire, peut-être, mais c'était comme ça. Hein. On ne savait pas, on ne connaissait pas, on faisait ce qu'on nous disait de faire, bêtement.
On s'est retrouvés sur le bassin versant du Vior très rapidement en zone vulnérable, hein, puisqu'on avait des, et on a encore aujourd'hui des nitrates assez élevés dans les cours d'eau. Donc il y a eu un gros travail de mise aux normes des bâtiments d'élevage pour essayer de limiter tous ces rejets de bâtiments. Donc aujourd'hui, maintenant, sur le territoire, normalement, toutes les exploitations sont équipées ou de poches ou de fosses pour les effluents d'élevage et également tout ce qui est sur les élevages laitiers, effluents de salles de traite. Mais c'est vrai qu'à une époque, les surplus de lait, puisque on a eu pendant longtemps les quotas, ils étaient jetés au cours d'eau.
Hélène Bouger, moi je suis animatrice du volet agricole à l'épage Vior. Donc les enjeux qu'on a sur notre territoire, on est sur des enjeux qualité de l'eau, pollution diffuse aux nitrates, pollution diffuse aux pesticides aussi, mais ça c'est beaucoup plus localisé sur certaines masses d'eau, c'est beaucoup moins présent sur notre territoire. Problématique de colmatage, ensablement des cours d'eau qui est assez présente sur l'ensemble du territoire. Donc un des enjeux majeurs, c'est vraiment l'érosion des sols. Donc même si quand on regarde le paysage, c'est tout vert, on est quand même sur des territoires donc, où on a de la prairie, mais on n'est pas forcément sur de la prairie naturelle. Donc il y a des retournements, il y a des labours. On est sur des pentes et sur des sols qui sont très sensibles à l'érosion. Donc on a cette problématique voilà, qui va entraîner le colmatage, mais aussi qui va transférer tous les polluants. Les nitrates, les pesticides, l'érosion est un enjeu important.
Depuis près de 20 ans, l'épage Vior anime et coordonne le programme AgriVior. Ce dernier rassemble de nombreux partenaires, dont la Chambre d'agriculture. Objectif : travailler avec les agriculteurs, trouver avec eux des solutions pour répondre à la dégradation de l'environnement, mais aussi au changement climatique. Première étape, partager avec les agriculteurs les problématiques.
En 2012, on a commencé un gros travail sur l'érosion. On s'est aperçu que les agriculteurs ne se rendaient pas forcément compte des quantités qui partaient. Et donc on a lancé une étude de modélisation de l'érosion et en plus de ça, on a fait des mesures. À l'automne 2012, sur un épisode orageux de 30 à 40 mm sur 3-4 heures, donc on n'est pas sur non plus sur des quantités énormes, on est allé mesurer sur plusieurs parcelles, toutes les rigoles, toutes les ravines, pour voir au final combien de terre était partie sur un épisode orageux. Et donc on est allé retourner voir les agriculteurs et ils n'imaginaient pas qu'il y ait autant de terre qui partent sur un épisode. Quoi. Sur certaines parcelles, c'était 16 tonnes hectares. En moyenne, on avait des pertes de 5-6 tonnes hectares. Et il y a eu une grosse prise de conscience. Vous imaginez, à l'échelle de 10 ans, si on a les mêmes pratiques, les dégâts que ça peut occasionner.
Deuxième étape, partager les solutions.
En fait, la première des choses, même, je dirais, avant la haie, c'est d'avoir des sols couverts. Pour limiter l'érosion, pour limiter les transferts de polluants. Puisque si on a un sol qui est couvert, la pluie elle aura moins d'impact sur le sol. Les végétaux vont permettre d'infiltrer l'eau. Donc on travaille beaucoup avec les agriculteurs sur ces thématiques-là. Donc couverture permanente, nous, sur nos territoires, on a la prairie. Mais on travaille avec eux sur la pérennité de ces prairies, sur l'entretien, parce qu'un surpâturage va dégrader de plus en plus la prairie, elle jouera moins ce rôle-là. Et c'est vrai que maintenant, toujours avec le réchauffement climatique, ils ont des difficultés à faire durer ces prairies-là. Donc on travaille avec eux sur l'implantation, le choix des espèces résistantes, des prairies de multi-espèces, comment bien gérer le pâturage, pour essayer d'avoir des prairies en bon état et qui durent le plus longtemps possible. Et puis après, on a tout ce qui est technique culturelle simplifiée, le semis direct, mais aussi implanter des couverts végétaux, faire des semis sous couvert.
Aujourd'hui, nous avons accompagné Hélène Pouget à une démonstration de semis de maïs sans labour. Une action co-organisée avec la Chambre d'agriculture et la Fédération des CUMA de l'Aveyron. Une trentaine d'agriculteurs sont présents.
Chacun peut nous dire qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démonstration. Est-ce que c'est un outil que vous connaissez déjà? Est-ce que voilà, vous faites déjà du travail simplifié? Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui veulent nous dire un peu pourquoi quelqu'un se lance.
Moi, je suis un peu à la recherche de semis directs de maïs, justement pour les problèmes d'érosion.
Par rapport à l'érosion aussi.
Voilà, ouais.
D'accord.
C'est pour ça que je suis venu.
Pareil,
ouais.
Et moi, je suis venu là parce qu'on est en technique culturelle simplifiée depuis un petit moment. Mon père avait fait des essais de strip-till à l'époque, ça avait bien marché. Et là, ça fait 2 ans qu'on essaie du semis direct de maïs, mais je sais pas, c'est moins concluant. Notamment sur les tours, c'est... Je sais pas, peut-être on compacte trop. Donc c'est pour ça que je voulais revoir ce que pourrait donner du strip-till.
Le maïs aujourd'hui est beaucoup décrié, sauf que nous, sur nos structures, ça a une part importante, le maïs. Donc il faut essayer de trouver des manières d'évoluer, de suivre. Moi aujourd'hui, si je ne fais pas de maïs, à l'équivalent, il me faut 2 hectares d'herbe. Donc il faut trouver des moyens d'être en adéquation avec l'évolution de tout, quoi. Et aujourd'hui, cette journée peut nous apporter peut-être des réponses sur ça, ou pas.
On a du mal à imaginer, à se projeter. Nos anciens ont fait comme ça, notre génération on a fait comme ça, et on a du mal à imaginer qu'il peut y avoir d'autres outils.
Oui.
C'est pour ça qu'on est venu
découvrir. C'est sûr.
On nous a toujours dit que le labour limite les adventices et tout ça.
Ah oui, c'est sûr.
T'enfouis tout, c'est propre.
Ah ben c'est sûr, après c'est vrai que du coup il y a des... De toute façon, dans chaque itinéraire...
Je suis Tiffany Constantin, je travaille à la Chambre d'agriculture en tant que conseillère en agroécologie.
Des avantages et des inconvénients.
On a fait une réunion avec des agriculteurs en début d'année, sur quoi ils avaient envie de travailler et ce qu'ils avaient envie de voir comme démonstration, comme essai. Et donc on a décidé de faire un essai autour de l'implantation du maïs avec 3 itinéraires, un classique avec labour, un avec un semi... avec des techniques simplifiées de travail du sol et un avec sans travail du sol avec un outil qui s'appelle le strip-till. Les agriculteurs sont énormément sollicités par tout un tas d'informations, que ce soit la réglementation, l'agro-industrie, les commerciaux, avec beaucoup de messages contradictoires.
Vous pouvez vous approcher par là si vous voulez. Allez, voilà. Ah, bien, il y a par ici. Approchez-vous, on va peut-être marcher que sur la partie qui n'est pas semée, si vous voulez.
Bon, ben, je vous présente donc juste Jean-Claude Platon, je suis animateur en machiniste à FGCUMA et donc on organise avec Rivior et la Chambre d'agriculture cette rencontre sur les techniques simplifiées. Donc peut-être Ludovic Soulier donc, est le propriétaire de la parcelle.
Ouais.
Peut-être que vous nous expliquez un peu ce que vous avez fait peut-être déjà dans le haut pour l'instant.
Eh bien, j'ai commencé, bon, j'ai labouré la partie haute et là on voit la bande là où il y a le chaume, il y a 3 passages. Un déchaumeur pas trop loin.
Et après combiné
et après, ouais, après je suis passé herse rotative sur les arbres.
Et semoir séparé. Et donc l'objectif c'est voilà, de faire un système donc, de semis en un passage. L'idée c'est de trouver des moyens pour lutter contre l'érosion et donc ça c'est un des moyens pour lequel voilà, il y a quand même pas mal de retours d'expérience aussi aujourd'hui. Et on n'est pas dans le semis direct maïs pur, donc on est dans quelque chose d'intermédiaire entre du travail profond mais sans bouleverser le sol. Quoi. Voilà.
On va aller voir la haie.
Les Pagevior travaillent aussi avec les agriculteurs sur la problématique des haies.
Allez, c'est parti.
Nous avons suivi Hélène Pouget à Durinc lors d'une rencontre autour de la promotion de l'arbre champêtre. Là, nous avons rencontré Sophie Huguenenck, directrice de l'association Arbres, Haies, Paysages d'Aveyron.
Ben, la haie, elle sert à tout. C'est facile. Le réseau national dirait que c'est un couteau suisse. Nous, ici, sur le bassin versant, on va surtout faire le lien avec l'activité agricole. Elle va servir au bien-être animal, bien sûr. Elle peut être aussi productive. On peut venir y récupérer du bois, soit pour le chauffage, soit pour faire du bois plaquette pour pailler les bêtes, par exemple. Et puis, bien sûr, au-delà de l'exploitation agricole, elle va avoir un rôle par rapport au bassin versant, notamment si elle est bien située, c'est-à-dire perpendiculaire à la pente. Elle va pouvoir avoir un rôle par rapport au sol, elle va jouer un rôle de barrage naturel, elle va arrêter la terre, et elle va aussi ralentir et infiltrer l'eau, et aussi la filtrer.
Au niveau de l'épage, c'est vraiment
Hélène Pouget.
L'animation et la structuration, essayer de dynamiser, faire travailler les différents partenaires et faire le lien entre tout ça pour que les agriculteurs soient accompagnés sur un maximum de points, d'actions. Et après, suivant les enjeux de l'exploitation, la problématique, je renvoie et je fais appel aux différents partenaires. Et donc tout ce qui est sur la thématique des haies, on travaille avec l'association.
Alors je vois bien l'intérêt quand il y a de l'érosion, quand il y a des choses comme ça, mais comment on arrive à faire passer son message quand c'est juste sur la pollution des eaux, quand c'est le problème pour ceux qui sont en aval?
Oui, ben, le problème c'est souvent ça, c'est que comme on travaille à l'échelle d'une pente, qui va du haut de la pente jusqu'à la rivière, celui qui est en amont, s'il ne travaille pas bien, c'est celui qui est en aval qui récupère les problèmes de celui qui est en amont. Ben, c'est beaucoup de temps passé à la sensibilisation, c'est beaucoup de redites. Moi, dans mon travail, j'ai l'impression que c'est un travail sur la durée. On n'a pas un résultat immédiat, donc déjà, il ne faut pas se démotiver. Il faut y mettre beaucoup d'énergie et il faut se dire qu'on sème des graines. Et on ne sait pas comment elles vont germer ni quand. Mais par contre, là où on retire de la joie, c'est que quand on voit quelqu'un qu'on a sensibilisé puis qui n'était pas vraiment partant, et puis qui, 8 ans, 10 ans après, revient pour planter, pour lancer une action. On a toujours des gens qui démarrent, qui sont précurseurs finalement. Et c'est souvent eux que les autres regardent et qui fait que les autres se lancent quelques années plus tard quand ils voient que ça marche. Voilà.
C'est le bouche à oreille qui fait que ça avance. Ils se sont aperçus que ça ne gênait pas tant que ça dans le champ et que ça retenait bien la terre. Voilà. Ils viennent des fois m'aider à travailler ou tout ça et ils voient que ça a servi. Quoi. Et depuis, il y en a qui s'y sont mis. Ouais. Si, mais en fait, c'est bien pour eux. Puis ils l'ont vu pendant des années. Enfin, poussé là et ils se sont aperçus que ça servait vraiment à quelque chose et du coup voilà et après ils ont fait le saut quoi. Après voilà il faut faire le choix, enfin, il faut être sûr de son coup quoi, c'est pas quelque chose qu'on fait pour 2 ans là. C'est vraiment du long terme quoi. Moi je connaissais pas au début, hein. Je savais pas du tout. Hein. C'est grâce à l'association que j'ai démarré, sinon moi j'aurais peut-être pas démarré après. C'est ce qui m'a bien aidé.
Donc nous, ici, sur le programme par rapport aux haies, c'est très positif. Avec la chance qu'on a, c'est qu'en fait, une haie, c'est durable et pérenne. Donc une fois qu'on l'a plantée et qu'elle pousse, sauf problème majeur, elle est là. Au début, on faisait uniquement de la plantation de haies, on faisait l'accompagnement à la plantation. Bon, maintenant, on a élargi parce qu'on se rend compte que l'arbre est très présent sur le département et notamment là sur le plan d'action. Donc on travaille aussi au bon entretien pour que les haies, elles restent en place le plus longtemps possible, hein, quand on parle de pérennité. Et puis on se rend compte aussi qu'avec le changement climatique, ça va devenir de plus en plus compliqué de planter. Ça va demander de plus en plus d'énergie. Donc la première question quand on nous demande de l'adaptation climatique, est-ce qu'il faut planter des oliviers? Non, il ne faut pas planter des oliviers. Par contre, il faut se préoccuper de ceux qui existent déjà, l'état dans lequel c'est, pour qu'elles vivent le plus longtemps possible. Et comme ça, elles vont pouvoir créer un microclimat qui nous servira derrière pour compléter avec des plantations si on en a besoin. Elles apportent de la fraîcheur, les haies aussi. Et elles abritent du vent. On n'en avait pas parlé, mais le microclimat, c'est vraiment important, surtout aujourd'hui où le climat se réchauffe.
Donc un bon entretien, ça demande quoi?
Un bon entretien, ça demande de respecter le végétal, de faire des tailles nettes au bon moment de l'année. Donc c'est plutôt, alors nous, on fait plutôt des tailles en hiver, mais surtout pas au printemps, par exemple. Et après, de travailler avec des outils qui sont adaptés à la taille qu'on veut faire. Nous, on privilégie beaucoup le sécateur hydraulique, qui ressemble à un taille-haie géant finalement.
et qui coupe les branches comme un ciseau et qui peut tailler des tout petits diamètres comme des diamètres un peu plus importants, jusqu'à en gros 6-7 cm de diamètre. Et ça permet d'intervenir sur ces haies que tous les 2-3 ans par exemple. Donc c'est du temps de main-d'œuvre gagné pour l'agriculteur, c'est aussi une économie, et ça va permettre à la haie de remplir aussi tous ses rôles vis-à-vis de la biodiversité, donc c'est vraiment intéressant.
Lors de votre prochaine balade dans la campagne, regardez autour de vous le paysage. Repérez les haies, les petites et les grandes exploitations. Posez-vous des questions sur le type de culture, le type d'élevage, l'histoire de la région. Et si, par hasard, vous êtes là un jour de crue, regardez la couleur de l'eau.
Quand il pleut, les gens ils voient les rivières marron. On est tellement habitués qu'on se dit que c'est normal, alors que ce n'est pas du tout normal. Mais en fait, c'est ça l'érosion. C'est qu'on va retrouver toute la terre fine qui est dans les parcelles agricoles, dans le fossé, sur la route et in fine dans le cours d'eau.
C'était Au Vior, épisode 4, paysage et aménagement des zones agricoles. Une série proposée par l'Épage Vior. Production, partage de voix, réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site d'Épage Vior et vos plateformes de diffusion de podcasts habituels. Si vous venez par ici, prévoyez une randonnée sur les bords du Vior. Vous y retrouverez le long du chemin des panneaux explicatifs.